soir. Ce soir, pour sa conférence, M. Brandberg nous parlera de la transformation de la pinacothèque de Brera et du défi en muséologie contemporaine. Il me reste, M. Brandberg, à vous remercier infiniment d'être ici ce soir. Pour nous, c'est un grand privilège. Et au nom de toute l'équipe, je voulais vous exprimer toute notre gratitude. Merci.
Merci beaucoup. Ok. Et ça va aller, ça vous pouvez m'écouter. Ok. Parfait. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier, bien sûr, les amis des musées de Bordeaux et Anne-Marie pour l'invitation, parce que c'est la seconde fois que je suis ici à Bordeaux. La première fois était il y a 2-3 ans. 7 ans. Ah, que le temps vole. C'est vrai d'ailleurs. C'est tout d'abord mes remerciements. Deuxièmement, j'aimerais bien demander votre patience et votre pardon pour mon français, parce que c'est... Il y a belle lorette, c'était ma deuxième langue, parce que je suis anglo-canadien, mais obviously au Canada, on apprend le français très tôt. Et moi, j'ai appris, je ne parle pas avec l'accent québécois, ben non, mais quand même, j'ai parlé très bien français il y a 25 ans. Maintenant, mon français est très contaminé, très rouillé à l'un côté, à l'autre côté, est très contaminé avec la langue italienne, parce que la langue italienne et la langue française sont très voisines. Et vous allez remarquer que parfois, j'ai une difficulté à mettre la parole juste en français, parce que j'ai pris plutôt la parole en italien. Je vous demande pardon préalablement. Bien, ce soir, j'aimerais bien entamer deux thèmes conjoints, deux thèmes jumeaux. Le premier thème, j'espère que c'est masculin, c'est la médiation. C'est la médiation muséale. C'est comme un musée fait la différence ou est différent que sa collection. Parce qu'il faut qu'on constate tout d'abord que la collection, c'est un constant. Hein, c'est la collection d'un musée, c'est sa collection. Mais la définition d'un musée, c'est la manière dans laquelle on fait la médiation, on fait la transmission, on offre, on présente, on montre la collection aux nos visiteurs, aux visiteurs. Ça, c'est un thème. Et c'est-à-dire, je vais parler beaucoup des cartels. Les cartels, parce que c'est, dans un sens métaphorique et réel, les cartels sont vraiment, c'est notre voix comme musée, aux visiteurs. Et même il y a 3 semaines, j'ai fait une présentation, une conférence à Paris, ensemble avec Jean-Luc Martinez de Louvre, sur le projet qu'ils ont de faire 40 000 nouveaux cartels. Et il m'a demandé de parler de nos projets divers, de la médiation muséale à travers les cartels. Le second thème est bien sûr la transformation de Brera. Je me rappelle, il y a 7 ans apparemment, que quand j'ai décrit le projet à Palazzo Strozzi, où j'étais directeur général, c'était un grand laboratoire. Mais je me rappelle à la fin une personne qui s'est levée, il m'a accusé d'avoir détruit le Palazzo Strozzi. OK. Moi, j'accepte toutes les critiques et j'en suis sûr que ce soir, il y aura peut-être des personnes qui pensent que je suis en train de détruire Brera. C'est comme ça. C'est mon travail, c'est toujours de transformation, de change, d'innovation, d'expérimentation. Les expériences une expérience, c'est défini par le fait qu'il y a quand même les possibilités d'échec. C'est une expérience, il n'y a pas de possibilité d'échec, ce n'est pas une expérience. C'est-à-dire que j'en suis sûr qu'il y en a ici, peut-être, les personnes qui pensent que je suis en train de détruire aussi le palais de Brera. Mais ça, c'est le projet maintenant. Alors, tout d'abord, je vais parler un peu du contexte muséal et aussi de cartel. Je me présente, Marie-Claire m'a présenté très bien, mais je me présente avec le cartel parce que... ça va de soi que si on va parler de cartel, il faut aussi qu'on se présente avec des cartels. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de travail dans les domaines différents. Et c'est pour ça que je fais la distinction entre le contenu d'un musée et sa médiation. Parce que le contenu, c'est le contenu. Ça peut être un musée de l'histoire naturelle, un parc zoologique, ça peut être un musée de la science, ça peut être une collection. Et nous devons vraiment penser plutôt de l'expérience du visiteur, qui est une chose qui est indépendante de la collection elle-même. Tout d'abord, on commence avec peut-être une définition. Ça, c'est une définition que j'utilise beaucoup. Parce que pour moi, ça fait partie d'une génération des activistes dans le musée. C'est une grande génération, une génération qui sont devenus directeurs pendant les années 60-70. Mais le musée doit fonctionner comme une institution à prévenir et soigner la cécité. An institution for the prevention of blindness. Et ça, c'est très important parce que le rôle du musée, le rôle de médiation, ce n'est pas seulement de conserver le patrimoine, de pas seulement conserver les objets. Parce que de conserver les objets, en fait, ça tourne le dos au public parce que conserver, c'est une activité qu'on peut faire sans payer l'attention à qui vient voir les œuvres. Donc, pour moi, je prends toujours une définition très activiste du musée. Et si vous voyez la dernière phrase, participe à l'organisation et la réorganisation de l'expérience. Et donc, la fabrication et refabrication de nos mondes. C'est-à-dire que le musée, ce n'est pas passif. Ce n'est pas juste une boîte, ce n'est pas juste un conteneur des objets, des beaux objets, mais aussi un instrument de la société et des changements et de la politique, mais avec un P minuscule, pas majuscule, c'est une institution activiste. Un grand directeur de Brera a dit presque la même chose. Ça, il a écrit en français, en fait. Il était très francophile. Il est inconnu en dehors d'Italie. Franco Russoli est le dernier grand directeur de Brera. Et moi, je considère justement un instrument de porter à terme ces projets. C'est parce que Brera, comme musée, était dirigé de trois grands directeurs de suite pendant presque tout le XXe siècle, commençant avec Ettore Modigliani, suivi par sa protégée, Fernanda Witkins, et suivi par Franco Russoli, qui était le protégé de Fernanda Witkins. Et il parlait aussi de tout le rôle social du musée. Et moi, j'ai repris un peu cette passion. Le débat au musée tourne souvent autour de cartels. C'est le champ de bataille dans un musée. Vous ne pensez pas qu'il y a des batailles au musée. Au sein du musée, il y a des batailles féroces parce que le cartel représente la voix du musée. Alors, qui a le droit de s'exprimer à travers le cartel? Qui écrit les cartels? Qui parle aux visiteurs? Ça, c'est un champ très, très contesté. Dans tous les grands musées, aussi au Louvre, quand je suis allé au Louvre, j'ai passé, avant de faire cette conférence avec Jean-Luc, j'ai passé 2-3 heures avec l'équipe qui fait le projet de cartel. Et ils m'ont raconté vraiment les tensions entre les conservateurs en chef, entre le commissaire, entre l'équipe d'éducation, entre les architectes, parce que tout le monde veut avoir le dernier mot sur le cartel. Le cartel, et je vais décrire avant un peu, le cartel comme tous les messages qu'on veut envoyer de la part du musée. C'est-à-dire que de casser le monopole qu'il y a maintenant, pour la majeure part des musées, les conservateurs, les historiens de l'art sur le cartel, est vraiment une bataille, une lutte féroce. Et le vrai problème que nous avons, c'est pas en fait il y a trop de visiteurs. Il y en a. En quelques cas, au musée de Louvre, il y a trop de visiteurs. Aux Uffizi à Florence, le nombre de visiteurs est en train de tuer le musée pour tout le monde. Et ça, il faut qu'on constate que de transformer, d'avoir l'émotion, d'avoir l'expérience de l'art au musée, un Botticelli, un Da Vinci, quoi que ce soit, c'est impossible, c'est en fait comme ça. Hein. C'est le fameux, la pratique de toutes les grandes expositions de masse, hein, le blockbuster. Mais c'est impossible d'apprécier l'art comme ça. Et c'est ridicule que nos politiciens, que nos politiques insistent que la mesure de l'excellence d'un musée soit le nombre absolu des visiteurs. Quand je vois le grand nombre de visiteurs, je dis, il n'y a personne qui apprécie l'art. Donc, la chose qu'il faut plutôt est qu'on concentre sur le moment d'engagement avec l'art, de créer les conditions d'extraire de l'art toute la valeur qu'il y a là-dedans. Et en fait, on peut l'exprimer, et ça, nous avons utilisé aussi au Palazzo Strozzi. Je vais illustrer beaucoup des points sur les cartels avec les exemples tirés de Palazzo Strozzi, parce que c'était pour moi un grand laboratoire de 10 ans d'expérimenter avec des divers moyens de médier, de faire la médiation muséale. Tout d'abord, le but de la scénographie, le but de tout ce que nous faisons dans le domaine public, à part tout ce qu'on fait pour conserver et étudier l'art, c'est pour encourager les visiteurs de regarder l'œuvre pour plus longtemps et aussi d'y tirer de plus, de voir davantage, de voir plus loin, de voir, d'avoir plus d'émotions liées avec l'œuvre d'art. Donc, un cartel, ce n'est pas juste le petit bout de papier, la petite description écrite. Ça, c'est une vision très limitée de cartel. Un cartel, en fait, c'est la somme de tout ce que nous faisons pour créer un sens. Si je mets un masque africain à côté d'un Picasso, sans une parole, c'est un cartel. Nous avons voulu que vous compreniez quelque chose. C'est l'acte délibéré de la part du musée de créer un sens. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre travail. Et c'est en voir le cartel, pas comme le petit bout de papier. Et clairement, ça joue, les paroles, les mots jouent un rôle très important, mais aussi les couleurs, la scénographie, la lumière, de vraiment d'illuminer un objet. C'est un acte de donner valeur. Ça dit, regardez. Si on ne fait pas ça, si on met le même objet dans une salle très claire, très blanc, avec la lumière diffuse, ce n'est pas le même message. Ça dit, flâner, c'est peut-être un objet intéressant, mais voyez-vous, c'est une autre chose. Le cartel, c'est tout ce qu'on fait pour créer un sens. C'est clair qu'il y a des conflits, des stéréotypes, des impressions, des approches différentes et très en conflit. Par exemple, les architectes, c'est sûr, moi je suis aussi formé comme un architecte, j'ai travaillé avec les grands architectes, et ils voient le bâtiment lui-même comme une forme d'une expression de leur art. Vous voyez Le Corbusier, vous voyez les grands architectes. Quand ils font les musées, comme Richard Meier, ils ont cette idée, ce beau rêve de musée sans cartel, mais même sans l'art. Les commissaires prennent souvent la même position. Regardez, c'est la même chose. Mais le pauvre visiteur qui arrive dans ce musée, parce qu'il y a cette mythe, cette idée que l'art parle pour soi-même, qui n'en est vrai. C'est une expression de la part des commissaires, des conservateurs, de l'histoire de l'art, qui sont déjà préparés. Ils n'ont besoin d'un cartel. Mais arrive une personne avec 2 doctorats, un doctorat en mathématiques, notre doctorat, je ne sais pas, en physique nucléaire. Mais ce n'est pas donné que cette personne éduquée, super intelligente, ça, elle sait bien que Pontormo était après Botticelli ou avant Bronzino. Ce n'est pas donné. Et pourquoi il faut qu'on prive ces personnes intelligentes, nos visiteurs, de l'information qui les prépare d'entrer dans l'art? Pour moi, cette approche me rassemble. Un autre environnement que je vous laisse imaginer. Par contre, l'argument, c'était tellement clair, nous aurions divers musées, mais il y a une peur de la part des conservateurs que le cartel domine l'art, que devient une forêt de cartel, et que le cartel prend plus d'importance que l'œuvre lui-même, elle-même. C'est l'argument toujours proposé de la part des historiens de l'art, parce qu'ils savent déjà, ils n'ont pas besoin de cartel. Ils craignent que le cartel va prendre trop d'importance. Ils croient que parfois, il y aura aussi une forme de récession, une forme de digression. Un cartel qui parle de l'œuvre, un autre cartel qui parle de le cartel, un autre même qui parle de le cartel, qui parle de cartel. Ça, c'est une installation d'un artiste qui a fait ce jeu. En fait, il y a un grand objet avec son cartel, avec le cartel qui décrit le cartel et le cartel qui décrit le cartel qui décrit le cartel. Il y a une autre installation dans laquelle... Mais alors, maintenant, je fais le dessin que tous les arguments, toute la polémique, toute la politique autour du cartel. Mais en fait, je retourne à l'argument central que... Qu'est-ce que c'est le cartel? Et ça, c'est pour moi très intéressant. Je pose la question, où est le cartel? Et souvent, les personnes disent, ah mais regardez, ça c'est le cartel. Mais en fait, ce n'est pas vrai, dans un sens. Le cartel, c'est tout ça. Le conservateur en chef a voulu montrer au public le fait que pour chaque objet, dans la nouvelle installation du Rijksmuseum, pour chaque objet parfait, il y en a des milliards et mille et mille et mille et millions des fragments. Et ça, même ce cartel, parce que pour moi, le cartel, c'est vraiment l'installation qui montre la relation entre le fragment et l'entier. En fait, c'était très, très disputé. Le conservateur lui-même a voulu remplir la vitrine avec vraiment des milliers, les milliers de fragments de porcelaine. Mais son chef, qui est le conservateur en chef, a dit non, l'interdit. Ce n'est pas esthétique, ce n'est pas beau. Alors, ça, c'est le résultat. Ça, c'est le fruit d'une bataille qui durait, je sais, 8 mois. Bien. Je vais illustrer aucun principe de cartel que je trouve très important. Et ce sont des choses peut-être banales, mais j'en suis pas sûr que tous les musées respectent les normes vraiment évidentes pour les cartels. Comme par exemple, chaque cartel doit être lisible et aussi agréable à lire. C'est-à-dire qu'il y a la compréhensibilité et la lisibilité. La lisibilité est une chose, c'est physiquement, parce que moi aussi maintenant, je vois beaucoup moins clair. Alors, les cartels doivent être lisibles, mais aussi doivent être écrits dans un langage, avec des textes qui sont ouverts à tous. À Palazzo Strozzi, par exemple, nous avons fait des lignes directrices pour limiter le nombre de paroles qu'on utilisait et pour insister que chaque cartel soit lisible à une distance de 3 mètres. Pourquoi? Et j'explique le principe parce que c'est très important, parce que quand je passe à Brera, c'est intéressant qu'il a fallu changer un peu l'approche. Parce que lisibilité d'un objet comme ça, qui est grand, disons comme ça, pourquoi on veut qu'un cartel soit lisible à 3 mètres? Pour deux raisons. Si le cartel est tout petit, comme les conservateurs en chef veulent, toujours, parce qu'ils pensent que le cartel interrompt l'expérience de l'art, ils le mettent tout à côté. Et tout le monde qui veut le lire font comme ça. Et c'est-à-dire, il y a une foule de personnes qui interrompent l'expérience de l'art à la distance idéale pour l'art, parce que le texte est écrit grand comme ça, les personnes doivent approcher et lire. Regardez la main de la Vierge. Quand le cartel est lisible à 3 mètres et l'objet comme ça, c'est intéressant parce qu'il y a un principe ergonomique qui s'appelle le cône de vision. C'est-à-dire que tout ce qui est dans une certaine mesure, un certain angle, est lisible et visible. En ce cas, je regarde le tableau et je ne vois même pas le grand cartel en dessous. Parce que c'est un peu flou, c'est en dehors de le cône de vision. Mais par contre, sans bouger, je peux baisser mon regard et je peux lire le cartel. J'ose mon regard, je regarde le tableau. Étrangement, paradoxalement, les cartels grands lisibles en dessous du tableau sont moins invasifs que les cartels qui sont tout petits à côté. Parce que lisibilité, pour les personnes, mais vous savez, je vois dans ce public, j'en suis sûr qu'il y a des personnes qui, au musée, ne voient pas très bien les tout petits cartels. Moi non plus. Comme ça. Voilà. Mais je vois en ça des grands problèmes des espaces, des numéros de parole et tout ça. Ça, c'est le Rijksmuseum aussi. À Palazzo Strozzi, nous avons aussi un autre principe, et ça, c'était d'inclure les voix outre et autre que les conservateurs, que les experts. Parce que c'est sûr, on ne peut pas nier la valeur des experts. On ne peut pas vivre sans la voix expert, les personnes ils ont donné 30 ans de leur vie étudiant une période de la vie d'un seul artiste. Nous avons besoin d'eux. Mais le problème avec ces experts, d'être expert, il faut oublier comme c'était d'être non-expert. C'est comme la ville. J'en suis sûr que si vous êtes bordelais, vous venez en voiture et vous dites « Pourquoi il y a tellement de sénélétiques, des panneaux, tout ça ?» C'est facile, en fait, deux fois droit, on vire à gauche et nous y sommes. C'est clair, vous n'avez pas besoin, vous avez oublié mon expérience d'arriver en voiture la première fois et moi j'ai terreur de me tromper, de perdre la rue, d'aller en cercle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprennent l'expérience et comprennent l'expérience de la première visite, de la personne qui ne connaît pas tout, qui est la personne non-expert. C'est-à-dire, il faut qu'on mette à côté la voix d'experts, d'autres voix. Nous avons écrit, par exemple, Palazzo Strozzi, les exemples rédigés par les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que les super non-experts. Pourquoi? Ça, c'est le cartel rédigé de le conservateur en chef. En fait, rédigé d'un expert, c'est un texte très clair. C'est sur cette œuvre de Paul Cézanne, Les cinq baigneurs. Le baigneur, OK, c'est très intéressant, ça parle de contrasté, ça parle de la période, là, là, là. Et nous avons mis ce cartel en dessous du tableau. Mais à côté, deux pas après, nous avons mis un autre texte, deux autres textes, écrits d'une jeune fille de 13 ans et une jeune fille de 11 ans. Et je vous garantis, j'ai fait la recherche, que les personnes qui ont lu ces cartels ont lu. Et la chose intéressante ici, c'est je pense que c'est une peinture déprimante parce que la plupart des gens sont en train de froncer les sourcils. Bon, Mais c'est vrai. Une fois lu ce cartel, ces cartels écrits des enfants, les personnes, ils sont retournés au tableau. Ils ont passé 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, parfois 10 minutes, discutant. Maman, vous pensez, ils font ça sur-il? Vous pensez? Il y a aussi, ils s'entendent, excepté l'un d'entre eux à droite qui semble pleurer. Il n'y a aucun expert conservateur au monde qui pourrait écrire cette ligne parce que ce n'est pas démontrable. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est, si, la fonction. C'est sûr que ça, c'est un mélange, l'italien et le français. Si la fonction de cartel, c'est de porter le regard au tableau, ces deux cartels fonctionnent beaucoup mieux que le cartel d'expert. Quand cette expérience, nous avons fait d'autres, nous avons fait une expérience de gloser les textes d'experts. Sur le texte au centre, c'est écrit des deux conservateurs en chef. À côté sont des voix d'autres experts qui ne sont pas toujours les mêmes. Ils disent non, mais c'est pas comme ça. Il y a de montrer qu'il y a des conflits, des différences d'opinion entre les experts mêmes. Nous avons, pour une exposition sur l'art chinois, nous avons porté les images de l'art, et l'art venait de l'Empire Tang, et nous avons interviewé les Chinois en disant, mais qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cet art? Et ils voient d'autres choses parce qu'ils sont nés dans cette culture. Ils voient une bodhisattva avec 1000 bras. Ils disent, mais c'est clair, c'est évident, c'est Guanyin. C'est la compassion. Pour nous, c'est exotique. C'est un peu bizarre même. Mais quand ils regardent, ils arrivent au musée et ils regardent Saint-Sébastien, ben pour nous, ce n'est pas bizarre. Pour eux, ben, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne à temps. Qu'on comprenne que les personnes sont déjà, ils arrivent avec leur expérience pour interpréter. Et nous devons préparer pour voir autre chose. Pour laisser parler d'autres personnes, nous avons dans une exposition sur l'art des années 30 en Italie, qui est un sujet qui est très contesté pour des raisons évidentes, c'est la période du fascisme. Nous avons mis un studio radio au centre de l'exposition et invité tous les enfants d'interviewer leurs grands-parents sur leur expérience. Dans quelques cas, il y avait des grands-parents qui ont vécu dans les années 30, parce qu'il y a des personnes vivantes qui ont vécu cette période. Ils ont 90 ans maintenant, mais quand même, ils ont raconté leur expérience. Lui-même, cette personne ici, OK, ça, c'est une jeune fille qui est allée, et lui est un prêtre qui a vu entrer à Florence à Hitler en mai 1938, comme jeune homme, comme jeune prêtre. Et nous avons créé en 4 mois une espèce d'archive, une espèce d'histoire orale de l'expérience de Florence pendant les années 30. Les cartels, comme je vous avais dit, ne doivent pas être toujours écrits. C'est, vous voyez cette image là-dedans, dans le coin, c'est décliné diversement. On n'a pas besoin de paroles. On n'a pas besoin de décrire pourquoi. Les enfants comprennent très vite. La même chose quand nous avons fait une exposition sur la sculpture de la Renaissance à Florence, où, bien sûr, la Renaissance est née. Nous avons fait aussi des expériences de toucher les sculptures, aussi avec les yeux fermés. Parce que aussi la sculpture peut avoir une dimension pour nos visiteurs non-voyants. Nous avons fait des expériences avec les touchscreens. Nous avons fait des expériences avec tous les cartels écrits en rébus d'une grande poète pour les enfants italiens. Et ils ont utilisé les cartels pour porter le regard vers les gobelins. Vous avez eu aussi Arnaud Bréjean. Il était conservateur de cette exposition, mais ces cartels écrits en rébus ont permis le public de chercher les détails dans les gobelins qui sont très denses, hein, sont très compliqués, ils sont très ennuyeux dans un cas, disons, sont trop difficiles. Il faut qu'on porte l'attention, c'est-à-dire que nous avons utilisé les cartels pour porter l'attention. Donc, comme je vous avais dit, à Palazzo Strozzi, j'ai utilisé le Palazzo toujours comme un lieu d'expérimentation et pour ajouter les voix différentes, de raconter non seulement la voix de Dieu, la voix de l'espère, de d'Arnaud en bas, mais aussi d'inviter les voix différentes au musée pour alimenter l'expérience et la possibilité de concentrer sur les tableaux eux-mêmes. Bien. Deuxième thème, peut-être le thème plus important pour vous, peut-être ça c'est un peu trop théorique, mais ça, j'ai passé ma vie dans le monde de la médiation muséale. On peut retourner à Brera, où je me trouve maintenant. Je suis à peine 2 ans comme directeur général à Brera. Je suis venu comme une expression d'une révolution, une révolution copernicaine presque, dans les musées italiens. Le grand défi, c'était en fait d'apprendre les musées à la gestion des personnes avec expériences différentes, mais de passer vraiment de la tutelle, hein, qui est conservation, à la valorisation. C'est-à-dire que de porter plutôt, de concentrer seulement et uniquement sur la conservation des œuvres, qui est en tout cas, on ne peut pas négliger les œuvres, mais de mettre au centre de notre travail le visiteur et la valorisation. Et au moment qu'on prononce la parole valorisation, il faut qu'on demande quelle valeur. On ne parle pas seulement et banalement de l'argent, ce n'est pas une occasion seulement de porter plus d'argent au musée. Au contraire. Mais les valeurs. Et la seconde phrase, c'est pour qui? La valeur pour les enfants, la valeur pour les non-voyants. Nous avons un programme pour les personnes avec Alzheimer. Valeur pour qui? Sur valorisation, ça relâche une énergie, une approche complètement différente que le défi de conservation. Nous avons, heureusement, la structure maintenant d'une forme d'autonomie gestionnelle mitigée. C'est-à-dire que nous avons un conseil d'administration, un conseil d'adresse, nous avons toute la structure de gérer le musée dans l'intérêt de notre public au lieu de le système précédent avant le 23 décembre 2014. Le ministère de la Culture italien, c'est comme ici en France, c'est un peu soviétique. C'est très de haut en bas. Il décide comme il décide à Paris. Parfois, il décide à Rome. Il décide les horaires, les prix des billets, les comportements, les programmes. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent savoir sur une seule politique d'horaire pour Naples, Venise, Milan, Turin? C'est la folie. C'est-à-dire l'autonomie est aussi liée avec un projet de décentralisation et d'évolution et de redonner la possibilité que les musées d'une ville soient liés avec la ville même. Ce projet était lancé de notre premier ministre Matteo Renzi, qui était le maire de Florence, d'où j'habite même. Maintenant. Et je me rappelle, il était choqué du fait qu'il était arrivé en gloire, le jeune maire de Florence. Et étrangement, il pensait que peut-être le maire de Florence, donnant que 13 millions de visiteurs viennent à Florence pour les offices, pour le Boboli, pour le Palazzo Pitti, pour le patrimoine, il avait cette idée folle que le maire de la ville avra quelque chose à dire sur les horaires et les prix. Il a appris très vite qu'il n'avait pas une seule possibilité d'entrer parce que c'était tout géré à Rome. Il était allé à Rome et la révolution a commencé. Alors, qu'est-ce que nous faisons à Brera? Nous avons tout d'abord, après 100 jours, le terme initial politique, nous avons fait une nouvelle mission. Une mission de remettre, en fait, le musée, qui est un musée d'État, au sein de sa ville et remettre le visiteur au sein de notre travail. Comment? Je vous montre les choses qui peut-être vont apparaître un peu banales parce qu'elles sont évidentes. Tous les musées du monde, mais pas les musées de l'État italien. Les musées d'État italien sont morts. Même le ministre lui-même a dit 30 ans en retard. Et c'est vrai. C'est de remettre Brera au cœur de la ville, les standards, les banners, parce que pour 200 ans après la naissance de Brera, en 1809, baptisé de Napoléon, le palais royal de les sciences et des arts, on pouvait passer Brera sans savoir qu'est-ce que c'était là-dedans. La première chose que nous avons fait, ce sont des grands standards. Nous avons fait toute une nouvelle signalétique digitale, électronique, qui change avec les événements. C'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus communicatif et ça a changé, transformé l'expérience de palais de Brera. J'apprends une parenthèse parce que le palais de Brera, nous sommes 7 institutions là-dedans. Hein. C'est pas seulement le musée. Le musée, c'est une petite partie. Il y a l'académie, c'est la plus grande académie de beaux-arts en Italie. 4 000 étudiants. Il y a le plus ancien jardin botanique qui était né comme un jardin des simples pour les jésuites. Il y a le plus ancien observatoire qui a donné le midi astronomique à Milan avant l'invention des ondes de temps. Il y a aussi la bibliothèque nationale Bredense, dont je suis aussi directeur, fondée de Marie-Thérèse Habsbourg en 1786. Et il y a aussi la Pinacothèque. Le musée, la galerie de l'art, qui était fondée de Napoléon, et il a imaginé, après dépouillé, il est arrivé avec la conquête du nord d'Italie en 1797, il a pillé toutes les églises, et il a voulu faire un Louvre d'Italie, le Louvre italien, ça c'est Brera. Nous sommes ouverts maintenant tous les jeudis jusqu'à 10 heures. Tous les troisièmes jeudis, nous sommes ouverts à 3 heures avec les jeunes musiciens qui jouent dans les salles. Et ça, c'est aussi, et ça, c'est pas caduque, hein, ça, c'est pas irrélevant. Nous avons normalement entre 600 et 1000 jeunes personnes qui viennent à 3 heures, payer 3 euros tous les troisièmes jeudis. Et nous avons aussi remis le visiteur, nous avons mis tout un apparatus de médiation là-dedans à Brera et nous sommes en train de réinstaller toutes les 38 salles d'exposition. Nous avons commencé avec la première réinstallation en mars 2016 avec un dialogue parce que on fait plus les expos temporaires. Je n'y crois pas, je n'y crois plus. Surtout pour un musée avec une collection aussi belle que Brera. En fait, au lieu d'expo temporaire, des dialogues. Et je donne juste un exemple. Le premier dialogue était, nous avons fait porter le mariage de la Vierge de la France, de Père Jean, et mis ensemble avec notre Raphaël, qui est le mariage de la Vierge, pour la première fois dans toute l'histoire de l'art. C'est dans tous les manuels de l'histoire de l'art, Père Jean, le maître, l'étudiant Raphaël, et il n'y a personne qui a jamais mis les deux tableaux l'un à côté des autres. Pour ça, on veut que le musée ait reproposé au public. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toucher à l'art lui-même. Hein. Ça, l'art d'un Caravage, un Raphaël, un Montaigne, c'est comme Shakespeare ou comme Molière, on ne peut pas toucher une virgule. Mais chaque fois, un acteur arrive sur scène pour représenter et faire Molière, il faut qu'il représente pour le public contemporain. Ce n'est pas l'art qui est contemporain, c'est nous qui nous sommes contemporains. C'est-à-dire la même chose au musée, il faut qu'on... C'est presque un art performatif, c'est presque comme le théâtre. Il faut que tous les 5 ans, tous les 3 ans, qu'on repropose dans une langue, un langage contemporain, les œuvres, dans une manière qui parle au public contemporain. Et non seulement, parce qu'il faut qu'on donne l'émotion. L'émotion est la chose qui lie la connaissance, le savoir avec, Marc transforme peut-être, le savoir dans une chose qu'on porte avant dans le futur. Tout le monde, nous sommes tous, les étudiants, nous avons étudié. Mais si on n'utilise pas tous les jours, on oublie très vite. On oublie aussi même la visite au musée. Mais nous avons la recherche qui montre qu'après 30 ans, il y a des personnes qui rappellent, ils ont un souvenir très fort de leur visite au musée. Peut-être même pas avec l'idée de quel musée, quel sujet, mais ils ont rappelé, ah, c'était là-dedans que mon grand-père m'a raconté que, ah, là-bas, ma maman m'a montré qu'en dessous de la table de Véronèse, il y avait un gars, un chat et un chien. Mais il y a des moments qui lient une expérience pour tout jamais. C'est-à-dire, on rappelle le premier baiser au musée, on ne va jamais oublier l'expérience muséale. C'est-à-dire, notre vrai travail, c'est de créer le maximum moment d'émotion, de lier l'expérience de l'art avec l'expérience de la personne. Donc, comme je vous avais dit, nous sommes en train de réinstaller. Nous avons fait 24 salles sur 38 et nous allons compléter la transformation, la réinstallation sera complet le 4 juin l'année prochaine. Il y a quand même un peu de chance. Mais on vient quand même d'une... Ça, c'est en 1925. Ça, c'est le musée. Et il faut qu'on rappelle aussi que Brera a vécu en 1943 un bombardement très important. Il n'y avait que 2 salles avec les toits. Tout le reste de la salle était absolument exposé. Il y a des photos terrifiantes de toutes les salles de Brera avec la neige. Parce que ça existait pour 2-3 ans, jusqu'à ce que ça soit réouvert de la part de Fernand de Witkins, en fait, en 1950, dans sa guise contemporaine. Là-dedans, nous sommes en train de faire un projet de cartel très important. Il y a au moins trois typologies de cartels différents. Il y a quand même les cartels pour chaque tableau qui décrit l'histoire de l'art de ce tableau, écrit de la part des experts. Quelque part d'où la provenance, l'iconographie, etc. Mais aussi les cartels écrits pour les familles. Comme je vous avais raconté, le fait qu'il y a un chien et un chat en dessous de la grande table de Véronèse, ben, ce n'est pas important pour un historien de l'art, en fait. Ce n'est pas intéressant. Mais pour une famille, pour une famille qui arrive avec les adultes, mais nous avons tous la même expérience. Il y a un enfant qui dit, mais pourquoi? C'est très embarrassant de ne pas savoir, de ne pas avoir une réponse. C'est-à-dire, ces cartels pour les familles sont écrits pour préparer les familles, les adultes, parce qu'une famille, c'est juste un groupe intergénérationnel, de parler, de raconter aux enfants quelque chose qui est intéressant au niveau d'enfants. Il y a aussi, et ça c'est très intéressant en soi, nous avons des cartels très innovateurs, je crois, écrits des grands auteurs. Orhan Pamuk, prix Nobel, il est en train d'écrire des cartels pour nous. Parce que nous avons des œuvres qui parlent de l'échange, surtout un grand tableau de Bellini, qui est à Saint-Marc, qui est dans un serment à Alexandrie, qui parle de l'échange entre les cultures musulmanes et les cultures chrétiennes. Intéressant, Orhan Pamuk est venu au musée et nous sommes allés voir la collection et il est arrêté en face de ce grand tableau. Qui, vraiment, c'est beaucoup plus grand que ça. Et il dit, « James, tu sais que ce tableau est sur tous les livres sur le travail que je fais et je n'ai jamais vu l'original. » Et il est en train d'écrire pour ça. Et nous avons les écrivains comme Sarah Dunnan, comme Ali Smith, Tiziana Scarpa. Nous sommes toujours en train de chercher les auteurs d'excellence, de raconter leur expérience du tableau. Et aussi, nous avons aussi une série de cartels expérimentaux pour les non-voyants. Comme vous avez peut-être deviné, je suis très intéressé dans les groupes qui viennent, qui sont minoritaires, mais pour moi très important, qui viennent au musée. Et comment on peut raconter les œuvres à eux. Donc, nous avons aussi les programmes d'ouvrir nos dépôts. Ça s'appelle le musée visible. Nous avons divers moyens de relire le musée, de raconter les aspects d'un musée qui sont souvent cachés. Parce que, comme je vous avais dit, je ne crois pas que le but d'un musée, c'est juste d'exposer les œuvres d'art. C'est vrai, il faut que nous conservions les œuvres. Il faut que nous étudions les œuvres. Il faut que nous interprétions les œuvres. Nous avons un laboratoire de conservation ouvert au public. Nous avons deux dépôts ouverts au public. Nous avons exposé le travail au musée pour dire qu'un musée est beaucoup plus important que vous pensiez. Et aussi, comme je vous ai dit, nous sommes en train de réinstaller. Et je vous invite de comparer. Ça, c'est l'avant et ça, c'est l'après. Et notables sont les cartels, mais aussi notables sont les choix de couleurs, les choix d'illumination. Le cartel inclut aussi les murs. La différence entre cette couleur et celle-ci est énorme. Si vous voyez le pauvre Caravage sur cette jaune moutarde, hein, et ça, il y a d'autres paroles que je peux utiliser pour décrire cette couleur, mais moutarde, la différence est claire. Et aussi, mais vous voyez aussi, les cartels. Ça, c'est le cartel écrit sur tableau lui-même, mais ça, c'est écrit de Tiziano Scarpa. Il raconte une expérience avec tableau qui transforme. Chaque visiteur qui lit ce tableau reste pour des minutes. Et ça, c'est la chose que disons, je ne compte pas le nombre de visiteurs, je compte le nombre de personnes qui sont transformées de l'art, qu'ils ont expérimenté une émotion forte. Et si nous avions une mesure juste pour transformation, ça c'est le numéro, ça c'est la mesure juste d'un musée, pas le numéro de visiteurs qui viennent. Nous avons récemment refait notre galerie des portraits, mais vous voyez la différence. La stratégie illuminotechnique scénographique aura de faire une espèce de studio d'artiste, mais avec une lumière très diffuse et très, pour moi, massacrante, parce que c'est rendu tous les tableaux au même niveau, on voyait pas les détails, et c'était très stérile. Et nous avons remplacé cette approche avec une approche beaucoup différente. Ça, c'est les nouvelles salles, la nouvelle salle du XVIIIe siècle. Il y a une partie qui reste de ce projet, non seulement de faire la réinstallation des collections, et aussi après ouvrir un café, un nouvel shop et tout ça, qui est évident. Mais j'ai parlé auparavant de Franco Russoli, directeur de Brera de 1957 à 1977. Il était le dernier grand directeur. Il était vraiment passionné, il a écrit, il a vraiment énoncé une vision de Brera qui, pour moi, reste toujours valide. Peut-être une semaine après mon arrivée à Brera, un de mes collègues m'a passé une photocopie un peu fripée, un peu quasi presque samizdat des essais que Russoli a écrits sur le musée, qui étaient introuvables pour 20 ans. Et j'ai commencé à lire et j'ai trouvé un frère, une personne qui pensait beaucoup de la même façon que je pense moi-même. Et peut-être je suis devenu un disciple de Franco Russoli. Je vois mon rôle maintenant, ce n'est pas de faire mon truc, de faire une autre expérience, mais de prendre la vision de Franco Russoli et de porter à terme. Il a décrit une vision de la grande Brera, le grand Brera, la grande Brera. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce qu'il était passionné de l'art contemporain, qui pour lui était de l'art moderne. Et il a séduit presque les quatre plus grands collectionneurs de l'art moderne italien dans la ville de Milan, la plus riche ville industrielle d'Italie, c'est-à-dire les plus grandes collections de l'art moderne italien en existence. Il a porté, il a convaincu les collectionneurs de les donner à Brera. Mais à Brera, il n'y avait pas d'espace. C'est-à-dire, il était contraint d'acheter un autre palais. Il a acheté le palais Citerio, qui est 150 mètres de distance de Brera, en 1972. Et il l'a destiné comme la destination finale des collections modernes. 72. Ça reste toujours fermé. 40 ans de polémique, de politique, de blocage. Et maintenant, en forme de palinceste, des décisions non coordonnées, des erreurs. Ça reste toujours clos. Mais en 2013, l'État a décidé d'investir 18 millions d'euros pour remettre en ordre. Et en fait, c'est promis qu'on va recevoir les clés en main cette année. Et on va ouvrir le palais comme la maison d'accueillir les collections de l'art moderne, qui sont parmi les plus grands, vraiment les plus grandes collections de l'art moderne italien qui existent. Et on va l'ouvrir, avec un peu de chance, l'année prochaine. Donc, c'est pour moi le dernier point, parce que j'ai un contrat de 4 ans. Je suis à la moitié. J'ai passé 2 ans, j'ai 2 ans, et mon ambition, c'est de finir, de conclure cette longue chapitre qui est vraiment une histoire interrompue avec la mort à 54 ans. En 1977 de Franco Russoli. Avec ça, l'histoire de Brera comme un musée vivant, comme un musée qui a pris son évolution, qui a continué de collectionner, de créer des collections, est finie. Parce que c'est coïncidé avec la naissance de le ministère de la Culture. En fait, le ministère de la Culture, la naissance la partition était aussi grâce à Russoli, mais il a repenti tout de suite et il a fermé le musée pour 2 ans en proteste parce que le ministère a pris tous les pouvoirs et mis à Rome et Russoli a perdu son musée dans un sens. C'est plus compliqué que ça, mais ça, en fait, c'est ça. En 1975, le ministère de la Culture est né sous le ministre Spadolini. Tous les pouvoirs sont allés à Rome et Rousseli a dit, ça ne va pas. Et il a fermé le musée pour 2 ans. Il a fait une série de projets expérimentaux. Et je ne sais pas, c'est ce qui aurait passé si Louis n'est pas mort d'une crise cardiaque le 21 mars 1977. Je peux seulement dire que moi, je vois mon travail maintenant de finalement conclure ce chapitre avec l'apparition de Palazzo Citterio, qui, comme vous voyez, est tout. Et en fait, il y a un projet maintenant de faire un pont en verre autoportant de connecter les deux palais. Et c'est un des plus beaux projets que j'ai vu. Et c'est vraiment. Et je n'ai pas une image de vous montrer parce que c'est tout frais, mais c'est un projet de faire une forme de passerelle en verre autoportant en dessous de jardin pour voir le jardin d'en dessous et qui va de les salles d'exposition de Brera jusqu'aux salles d'exposition de Citterio. Je vais conclure avec une autre initiative parce que c'est très important pour moi de relier Brera avec sa ville, avec Milan, avec sa ville dans le sens, pas le sens du comune de Milano, ça c'est une définition politique, structurelle, administrative, mais avec la ville elle-même. Et pour faire ça, il faut qu'on fasse une forme de compas, avec une forme de deal avec les citoyens, avec les personnes, avec les Milanais. Donc, nous faisons pour chaque étape de la réinstallation, et on avait maintenant 5 dialogues, étapes pour faire les 24 salles. Pour chaque événement important, on invite en preview, avant que ça soit public, tous les taxistes de la ville, tous les concierges de la ville et tous les guides touristiques de la ville pour voir tout ce que nous faisons avant que ça soit ouvert au public. Et ça, c'est pas de marketing. C'est pas fait dans l'esprit que je pense que les taxis vont porter les visiteurs à Brera. Ça m'en fiche. C'est plutôt de reconnaître que chaque ville a une forme de chaîne d'arrivée, une série de points, de moments d'arrivée. Quand j'arrive à Bordeaux, je prends un taxi. Pas dans ce cas. Mais normalement, je prends un taxi, je vais à l'hôtel, j'ai le concierge. Pour nous tous, la qualité de cet accueil est vraiment fait l'impression de la ville. À la fin, c'est le musée, peut-être aussi la Scala, peut-être le Duomo. Mais la chose importante, que les citoyens, les personnes qui font l'accueil pour la ville, fassent partie de cet accueil global. Donc, on fait tout ça dans l'esprit d'être fier de Brera. Et ça, c'est intéressant. Dans le nord de l'Italie, la parole juste serait orgueilleuse. La même parole en français, orgueil. Mais en fait, fier, à Milan, on dit fieri de Brera. Fier. C'est très intéressant linguistiquement. Nous avons, si vous êtes intéressé, un très, 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 très beau ou belle website. C'est vaincu un grand prix de meilleur website pour le musée italien, blablabla. C'est très intéressant. Je vous conseille fortement de consulter. Nous avons lancé il y a 2 jours un projet sur le site qui s'appelle My Brera, qui consiste dans les portraits de toutes les personnes qui travaillent pour Brera et racontent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Et ils sont liés chacun avec un portrait à côté de leur objet préféré. Bien, avec ça, j'ai terminé. Je vous remercie pour la patience. J'espère que le discours était cohérent. Et je vous invite tous de voir à Milan si je suis en train de détruire le palais comme j'ai détruit à Florence. Merci beaucoup. Merci beaucoup.